Vous écoutez Radio Ndekeluka sur les 100.9 FM. Cette émission est une rediffusion.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Magazine économique. Ce samedi, nous parlons de l'enquête sur la gestion des redevances forestières dans le sud-ouest de la RCA, des révélations faites par la haute autorité chargée de la bonne gouvernance mettant en cause les maires des communes et les contrôleurs financiers dans des présumés détournements et malversations financières. Les malversations financières, quels impacts ont-elles sur l'économie centrafricaine? Nous recevons Zéphiré Mouba, haut commissaire à la haute autorité chargée de la bonne gouvernance. Nous aurons la réaction de Eric Pogola, député de Nola 3, qui cite un exemple précis de détournement, et également la réaction de Maître Crépin Mbouligoumba, président du parti politique Patrie. Il dénonce l'impunité. Et dans le mot de l'économie, Didas Sabone, notre expert pour ce magazine, nous parlera de la corruption, les causes et les conséquences de sa pratique sur l'économie d'un pays. Magazine économique, une émission de Radio Ndekeluka, Rodrigue Laura Benga au micro, Sylvain Nambois à la console. Zéphirin Mouba, haut commissaire chargé de la bonne gouvernance, est notre invité. Il a dirigé une mission de la commission spécialisée numéro 3 dans le sud-ouest de la RCA pour s'enquérir de la gestion des redevances forestières par les municipalités. Il révèle ici des irrégularités, des détournements et déplore le traitement du personnel des sociétés forestières.
La commission permanente spécialisée numéro 3, composée du haut commissaire Zanga Kwiwe, du haut commissaire Sylvain Feigodozoui, Dieudonné Sokouba et moi-même, avions effectué une mission d'investigation dans tout le sud-ouest. Vous savez, le sud-ouest, c'est une zone forestière très riche en forêt et en faune. Et nous avons parcouru les communes forestières pour effectivement nous rendre compte de la gouvernance des redevances forestières dans ces communes. Grande a été notre surprise de comprendre qu'il y a des anomalies, des malversations. Et ces malversations concernent plus une catégorie d'acteurs institutionnels que sont les présidents des délégations spéciales, les contrôleurs et agences spéciales qui dépendent directement du ministère des Finances.
Mais là, vous vous dites que les sociétés forestières ne paient pas leurs redevances forestières ou ce sont les municipalités qui ne font pas bon usage.
Les sociétés forestières paient régulièrement leurs taxes. Parce qu'ils paient des taxes. Ils paient des taxes. Et quand ils paient ces taxes, c'est une partie que l'État reverse. Donc, vous savez, si les sociétés ne payaient pas, on ne les verrait même pas. Donc, toutes ces sociétés qui sont dans le sud-ouest, Sefka, Tanri, Sofocad, Timberland, Rougier, STBCA, Saint-Focam, toutes ces sociétés payent. Maintenant, c'est la gestion que les communes font des fonds qu'ils reçoivent. Les fonds reçus sont mal gérés. Vous savez, quand le président de délégation reçoit l'argent, il ne rend pas compte à la communauté et surtout au conseil. Ça, c'est un point. Deuxièmement, les investissements qui se font. Il faut que cela respecte les programmes d'emploi. Vous savez, en 2007, le président Bozizé a pris ce qu'on appelle les instructions présidentielles pour cadrer, recadrer un peu les choses en disant désormais, il faut que chaque commune présente un programme d'emploi et ce programme d'emploi doit être validé devant un comité de validation. Et on vous délivre les fonds, mais une partie, soit 50%, vous commencez les travaux, arrivez, lorsque vous finissez, vous venez, il y a un comité de suivi et de contrôle qui va et qui voit et délivre un quitus pour qu'on vous donne le restant. C'est ainsi que les communes ont fonctionné jusqu'à une certaine période où il a commencé à avoir des relâchements, etc. Et la corruption s'est installée parce que ceux qui vont contrôler vont devenir juges et parties parce qu'ils vont exiger un peu d'argent. Et ça, c'est dans les communes que nous avons appris cela. Les maires, des conseillers, il faut donner quelque chose. Et quand vous donnez quelque chose, ils vous disent, bon, vous serez couvert. Ben, si vous êtes protégé, vous pouvez donner autant et rentrer dans ces malversations. Et c'est ainsi qu'une partie des fonds perçus à Bangui est déjà partie et l'autre partie qui revient et qu'on dépose dans les caisses de trésors régionaux. Mais il faut encore des parcours pour accéder à cela avec les contrôleurs financiers, etc. Mais nous avons eu tous ces faits-là, mais avec les noms. Vous savez que les gens savent ce que font les autres les concernant, surtout lorsque ça touche leurs intérêts. Nous avons des noms. On nous appelle régulièrement pour nous dire que depuis notre passage, il y a des contrôleurs financiers qui ont commencé à monter des factures, à monter des papiers pour justifier. Donc, ils sont au courant que les papiers qu'on a demandés, ils n'en ont pas, ils commencent à faire. Mais nous saurons comment remonter. Et comme on a dit, nous allons pousser l'enquête. Et s'il y a des poursuites judiciaires à faire, nous le ferons.
Concernant le traitement du personnel des entreprises d'exploitation,
forestière. Comment vous jugez le traitement du personnel de ces entreprises-là?
Il y a des anomalies, il y a tellement d'anomalies. Si les sociétés forestières qui sont installées en Centrafrique faisaient bien ce qu'elles étaient en droit de faire, je pense qu'il y aura la joie là où nous sommes passés. Mais malheureusement, si on fait l'analyse comparative avec d'autres sociétés dans d'autres pays, par exemple au Congo, avec CIB, vous voyez la base de vie, c'est construit en matériaux durs. Chez nous, c'est en bois, dont la longévité dépasse 20 années. Ça commence à pourrir les toitures. Dans certaines sociétés comme Timberland, c'est des maisons en bois d'une chambre, hein, entrée couchée, où vous pouvez trouver plus de 10 personnes. Les gens dorment dans des conditions difficiles. Et deuxièmement, on a recensé à peu près 3900 employés qui ne sont pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et pourtant, à chaque paiement de salaire, il y a de retenues en termes de cotisation sur leur salaire. Vous voyez, où partent ces fonds-là? Et donc, nous avons décidé, en collaboration avec CNS, où nous avons été reçus par le directeur général, où nous avons échangé sur cette anomalie-là, ces cas-là, il est question d'organiser des missions mixtes. Haute autorité chargée de la bonne gouvernance, ministère du Travail et la Caisse nationale de sécurité sociale pour procéder à des immatriculations systématiques. Ils auront les modalités de calcul. Parce que vous savez que généralement, si vous avez 20 années de cotisation, ça revient à temps en fonction du salaire, etc. Ça va constituer des arriérés que les sociétés doivent payer. Ça, c'est une obligation. Ils doivent le payer parce que ça rentre dans le rétablissement des droits. Nous sommes un état de droit. Et ça rentre dans le rétablissement des droits des employés. Il y a des employés qui ont fait 20 ans, 30 ans, qui ne savent même pas s'ils sont immatriculés, parce qu'ils sont contraints au travail tous les jours. Et quand ils doivent aller à l'OCCS pour s'immatriculer, il faut s'absenter et il faut demander l'autorisation. On ne leur donne pas. Et aussi le niveau de salaire. Il y a des gens depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ont le même salaire. Il y a des gens qui touchent 13 000 francs, 15 000 francs par mois. Vous voyez comment les gens vivent. L'accès à l'eau potable dans les bases de vie. Oh, mais c'est un parcours de combattant.
Vous avez également parlé de la nationalité du personnel.
Oui. Si vous arrivez dans des sociétés comme Timberland, vous avez le chef de personnel, c'est un Camerounais, une femme, une Camerounaise. Et quand nous menions les enquêtes, on a demandé à voir, on nous a présenté un faire-valoir centrafricain qui n'a même pas les capacités pour faire ce travail. Mais il y a des gens quand même dans ce pays qui ont des expériences en termes de chef de personnel qu'on pouvait prendre. Mais comme la société a recruté, et a recruté selon ses préférences. Le comptable aussi, c'est un Camerounais. Le jardinier, c'est un Camerounais. Le cuisinier, et il y en a plein. Vous voyez, nous savons qu'il y a des postes où les Centrafricains pouvaient assumer. Mais si les capacités ne s'y est pas, mais on peut les mettre à côté des autres, même s'ils fussent des étrangers, pour qu'ils apprennent petit à petit. Mais systématiquement, avoir à peu près plus de 10% du personnel comme ça, et surtout dans des postes où on peut trouver localement des gens pour le faire, et cela pose problème. Et ces postes-là, généralement, c'est des postes les mieux payés. Et quand vous allez dans certaines sociétés, ces sociétés n'existent que de nom. C'est des prête-noms, comme Rougier. Rougier qui existe au Gabon, ce n'est pas le même Rougier ici en Centrafrique. On utilise ce nom. C'est un Camerounais qui est là et le siège est basé au Cameroun. La société Rougier, société STBCA, la société Symphocam, ils sont tous basés là-bas. Et on nous dit que c'est des succursales de droit centrafricain, etc. Avec des DGA qui sont des Centrafricains, mais qui sont à la primature, qui sont à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, c'est des genres de négociations pour faire venir des sociétés qui existent à l'étranger, mais qui viennent là en intelligence pour piller les ressources ici. Alors, comment nous allons faire avec cela? Notre forêt ne représente que 8% du territoire national. Nous devons la gérer vraiment très minutieusement. Il faut amener ces sociétés-là à aller vers la certification. On a signé des accords volontaires APV FLEG, mais c'est pas suffisant. Il faut amener ces sociétés à aller vers la certification de type FSC, pour que les critères concernant les conditions de vie, le social, soient pris en compte dans ces sociétés. Il faut une certaine discipline. Une discipline concernant la consolidation de l'économie forestière, le recrutement, la gestion du personnel et tout ce qui concerne la base de vie.
Face à tous ces manquements que vous venez d'énumérer, comment la haute autorité chargée de la bonne gouvernance compte apporter des solutions à tous ces problèmes?
Nous n'apporterons pas nous-mêmes les solutions. La haute autorité chargée de la bonne gouvernance a pour mission de veiller à la bonne gouvernance et de lutter contre les pratiques de mal-gouvernance ainsi que les infractions assimilées. Donc nous allons nous rapprocher des ministères concernés, par exemple le ministère de l'administration qui assure la tutelle de ces communes, pour leur parler de la refondation même de l'administration municipale en RCA. L'administration municipale en RCA n'existe pas. Même si on peut dire ça existe, mais ça n'existe que de nom. Parce qu'il faut qu'il y ait des techniciens, des cadres qualifiés capables de faire, même si le président de délégation est aujourd'hui muté, enlevé, mais qu'il arrive, qu'il trouve des cadres compétents compétents, des comptables compétents, des secrétaires généraux compétents. Et deuxièmement, il faut rapidement discipliner et moraliser les dépenses de ces communes-là en mettant en place ce qu'on appelle les manuels de procédure administrative et financière pour réduire un peu les cas de détournement. C'est-à-dire que toute action ou dépense engagée doivent avoir des papiers pour avoir une traçabilité. On ne peut pas se lever comme ça et monter des programmes et réaliser. C'est au moment de l'inauguration que les gens apprennent que telle auberge a été réalisée à 25 millions, tel monument 15 millions, etc. Non. Troisièmement, rapidement, il faut prendre des mesures pour que la gestion des redevances forestières soit directement suivie et contrôlée à la base, dans les sous-préfectures. Vous voyez, c'est la même chose qui se passe dans les pays comme au Gabon. Il y a des comités qui sont mis en place. Quand le maire gère, il rend compte à un comité local là-bas et qui voit et qui peut contrôler la moralité des dépenses. Que de prendre des gens à Bangui qui ont des attentes financières très élevées et des regards pleins de corruption et qui vont pour piller et non pour développer. L'autre mesure, effectivement, c'est de poursuivre les acteurs mis en cause. Il faut qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont consommé, malhonnêtement. Ils travaillent. On ne peut pas, parce qu'on a des finances, monnayer sa signature à 500 000 francs. Vous voyez, ça c'est quelle administration. Et on va pour appuyer les communes. On va pour appuyer l'arrière-pays à se développer. On ne peut pas monnayer cela. Et ceux qui sont dans ces cas-là, ils reprendront ça devant la justice. Il y aura des témoins, ça c'est clair. Et je tiens à rappeler aussi à travers votre antenne qu'il y a certains contrôleurs financiers et certaines agences qui ont commencé à menacer tous ceux qui nous ont donné des informations. Et ils vont les réclamer à la gendarmerie, prétextant qu'ils ont subtilisé leurs documents pendant leur absence pour donner à la haute autorité et fournir des fausses informations. On les met en garde, parce que la haute autorité chargée de la bonne gouvernance est une institution républicaine. Nous ne menons pas des investigations pour incriminer ou pour faire plaire à tel ou tel. Lorsque les faits sont avérés, comme le dit dans notre article ici, le président de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance fait recours à la compétence de la justice. Et le reste, c'est la justice qui a le droit de le faire.
Monsieur Zéphirin Mogba, je vous remercie.
Je vous remercie.
Le député de Noula 3 dans la Sangambaïré, quant à lui, salue cette enquête de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, mettant en cause les autorités locales dans un présumé détournement des taxes communales liées à l'exploitation forestière dans la région. Eric Pogola cite des exemples précis. Selon lui, la gestion des redevances forestières dans les communes de Bilolo et Salo est gangrénée de détournements et corruption en défaveur de la population. Igor Deskin-Senapay.
Selon le député de Noula 3, la gestion des redevances forestières dans les communes de Bilolo et Salo n'est jamais faite dans la transparence. Il indique que les taxes versées par les sociétés forestières à hauteur de plusieurs dizaines de millions sont toujours détournées par la présidente de la délégation spéciale et ses acolytes. L'élu de la nation se réjouit de ce rapport de la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, Eric Pogola.
Dans la commune de Bilolo et Salo, Noula Centre, il y a les taxes d'abattage qui est versée souvent par la société de bois, mais ce qui fait que la population ne voit jamais cet argent. Cet argent est détourné au niveau de maires et les PR et au niveau de Bangui. Les maires disent qu'il y a les ministres qui sont en train de soutirer le sou. Et c'est une réalité parce que ces maires sont restés en fonction juste aujourd'hui. C'est par rapport au rythme de corruption qui gangrène dans notre société.
Pour illustration, le parlementaire révèle que présentement, la commune de Bilolo a déjà encaissé plus de 40 millions de francs CFA comme taxe de l'année 2020, mais ce fonds est porté disparu. Le personnel mécontent demande à la mairie de l'éclairer sur cette affaire.
À partir de Bilolo, Salo, vraiment c'est un scénario. On ne voit rien dans notre zone. Alors que l'argent là, il y a beaucoup d'argent, il y a souvent 50 millions, 60 millions, mais l'argent là part où? Mais Dieu merci, l'autorité de bonne gouvernance est allée toucher ça au doigt. Et d'après son rapport, on va voir ce que le gouvernement va faire. Moi, je demande au gouvernement de nous situer, de voir ce qu'on peut faire pour ces maires qui sont en train de détourner toujours de l'argent. Parce qu'à présent, je te dis qu'il y a au moins 40 et quelques millions à l'heure actuelle que je te parle qui est maintenant comme ça là, ça disparaît comme ça là. Il faut que le gouvernement doit demander là où c'est parti cet argent.
Selon des sources proches du dossier, les présidents des délégations spéciales détourneraient ces fonds à travers un vaste réseau impliquant les hauts cadres du ministère de l'administration du territoire et les contrôleurs financiers affectés dans les mairies. Une pratique qui approuvit davantage les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des projets en faveur de la communauté.
Merci Igor. Et pour Maître Crépin Boligumba, président du PATRI, cet état des choses est dû à l'impunité. Il est au micro de Jean-Fernand Koïna.
Il y a plusieurs scandales en la matière. Il n'y a pas que la forêt. Mais au-delà de ça, il y a un état d'esprit. L'état d'esprit de l'impunité dans notre pays. C'est l'idée que quel que soit le montant qu'on détourne dans notre pays, plus rien ne peut nous arriver. Je vous renvoie au scandale de Bozoum où des centrafricains ont été empoisonnés à travers l'utilisation du mercure. Est-ce qu'on a envoyé quelqu'un en prison? On connaît les noms. Il n'y a même pas eu de procédure. Et puis, ce n'est pas le premier rapport. que la haute autorité de la bonne gouvernance aura mise à disposition. Il vous souvient qu'il y avait un rapport sur la gestion du ministère de la Défense, où on a établi des détournements de plusieurs milliards. Moi, je connais bien ce secteur. J'ai été ministre d'État par intérim. Il y a aujourd'hui des gens qui sont bénéficiaires de certains permis qui étaient venus me voir. J'avais dit à l'époque que la transition n'a pas vocation à attribuer des permis. Malheureusement, lorsque notre transition a fini, l'autre transition a attribué des permis. Je connais bien ce secteur. Je connais bien les problèmes de mon pays. Je ne suis point surpris par la production de cette équipe-là. L'impunité, c'est ce qui tue notre pays.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Sans plus tarder, recevons notre expert pour ce magazine, Didas Sabone, économiste banquier et maître de conférence à l'Institut technique des banques à Paris. Didas Sabone nous parle de la corruption.
La corruption est la perversion, c'est-à-dire une action de changer en mal ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes.
Alors pourquoi les gens pratiquent la corruption?
Je dirais que le but de la corruption est multiple. D'abord pour le corrupteur. Le corrupteur cherche à travers la corruption à obtenir des avantages ou des prérogatives particulières. Tandis que pour le corrompu, c'est d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. À cet effet, la motivation de la corruption conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou de l'organisation corruptrice, qui peut être un parti politique, ou un régime politique, une entreprise, un club, un groupe mafieux, etc., etc. La corruption est donc une pratique illicite, mais dont le propre de la corruption est justement d'agir de manière à la rendre impossible à déceler ou à dénoncer.
Alors, qui sont généralement concernés par la corruption ou bien quels sont les secteurs touchés par la corruption?
La corruption peut concerner toute personne bénéficiant d'un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un président de la République, un membre du gouvernement, un député, un maire, etc., etc. Ça peut être un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif, un syndicaliste ou l'organisation à laquelle il appartient. Bref, il est donc clair que tous les secteurs sont plus ou moins touchés par ce fléau qu'est la corruption. Et selon une étude, les secteurs comme la police, les impôts, le trésor, la construction, les douanes, l'éducation nationale, la fonction publique, la justice, la santé et le transport sont les 10 secteurs les plus gangrenés par la corruption.
Monsieur Didas Sabone, on parle souvent de la corruption active et la corruption passive. Qu'est-ce que cela signifie?
La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. Par contre, la corruption passive consiste à recevoir cet argent-là. Un exemple classique est celui d'une autorité politique qui reçoit de l'argent à titre personnel ou pour son parti politique de la part d'une entreprise de BTP et en retour lui attribue un marché public. Dans ce cas d'exemple, l'homme politique pourrait être accusé de corruption passive puisqu'il a reçu de l'argent, alors que l'entreprise BTP peut-elle être accusée de corruption active? En revanche, si cette autorité politique dirige une association ou une fondation d'entreprise, le reversement d'argent à son association ou à sa fondation sera considéré comme de la corruption indirecte.
Quelles sont les caractéristiques de la corruption?
La corruption, je dirais, se caractérise par deux choses principales, par ses formes et par ses types. D'abord, les formes de la corruption sont les suivantes. Les dessous de table, la fraude, l'extorsion, le favoritisme et le détournement de fonds.
On va les aborder un à un. D'abord, les dessous de table.
Les dessous de table, ce sont des versements à des responsables officiels afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable. Je donne un exemple. Ça peut être dans un parlement, le gouvernement qui veut présenter une loi, qui sait à l'avance que cette loi passera difficilement, va peut-être se lancer à donner de l'argent à certains députés pour bénéficier de leur complaisance afin de faire passer cette loi-là. Mais l'argent qui est remis aux parlementaires, dans ce sens, est appelé dessous de table.
Et la fraude?
La fraude, c'est la falsification des données, c'est la falsification des factures, etc., etc.
Et aussi l'extorsion?
L'extorsion, c'est l'argent obtenu par la coercition ou bien par la force.
Vous avez également parlé du favoritisme ou le népotisme, c'est quoi?
Le favoritisme, C'est ça qu'on appelle aussi le népotisme ou la collusion. C'est le fait de favoriser des proches, parents, amis, époux, épouses. C'est ça qui constitue le favoritisme ou le népotisme.
Vous avez enfin cité le détournement de fonds.
Le détournement de fonds, c'est le vol des ressources publiques par des fonctionnaires de l'État.
Maintenant, qu'en est-il des types de la corruption ?
En effet, il y a deux types de corruption. La grande corruption et le deuxième, c'est la petite corruption.
C'est quoi la grande corruption ?
La grande corruption, c'est une corruption à haut niveau où les décideurs politiques, créant et appliquant les lois, utilisent leur position officielle pour promouvoir leur propre bien-être, leur statut ou leur pouvoir personnel. Par exemple, s'il y a corruption dans le cadre d'octroi d'un permis d'exploitation de ressources minières, cela se fait qu'au niveau de haute autorité et non au niveau des fonctionnaires en bas. Et les montants sont des montants colossaux. Ça, c'est de la grande corruption.
Et la petite corruption alors ?
La petite corruption, c'est la corruption bureaucratique dans l'administration publique. Vous circulez et puis vous trouvez un policier, au lieu de vous verbaliser, vous lui filez quelques petits billets, il vous laisse partir. Vous allez dans les administrations, vous filez quelques billets pour qu'on vous favorise quelque chose. Ça, c'est de la petite corruption.
Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à faire, à pratiquer la corruption ?
D'une manière générale, la corruption a plusieurs causes. On peut citer quelques-unes. D'abord, la mauvaise gouvernance, le manque de transparence et de responsabilité, un système judiciaire inadéquat. Puis, on peut citer l'absence ou la faiblesse de toute politique anti-corruption préventive. On peut aussi, parmi les causes, on peut citer l'impunité, c'est-à-dire le manque de volonté politique et le laxisme des plus hautes autorités dans un pays donné à réprimer la corruption. Car l'impunité encourage la progression de la corruption. Ensuite, on peut parler de la faiblesse de l'institution. Si les institutions sont faibles, par exemple des fonctionnaires à forte autorité ayant peu de comptes à rendre. Enfin, pour citer les faibles salaires dont l'administration publique expose certains fonctionnaires à la corruption.
Quelles sont les conséquences de la corruption sur une économie comme la nôtre ?
La corruption est un fléau qui constitue